Nu après, qu'est-ce que voilà, comment est né le livre? Est-ce que c'était la volonté d'écrire un roman épistolaire ou d'écrire un roman plutôt comme une intrigue policière?
Non, l'idée première, c'était l'envie d'écrire un roman policier de facture tout à fait classique, hein, classique, c'est-à-dire à la Agatha Christie, avec un meurtre, un enquêteur, une victime, des suspects, et à la fin, un, une ou des coupables. La deuxième envie, c'était de faire ce que j'ai écrit quatre romans qui sont très différents, mais le point commun, c'est qu'ils ont tous une dimension historique. Et là, c'est la première fois que d'un roman à l'autre, je reste à peu près à la même époque, puisque mon roman précédent, Civilisation, se déroulait déjà à l'époque de la Renaissance, mais dans le monde entier. Hein, j'imaginais que donc c'était une histoire contrefactuelle où j'imaginais qu'au XVIe siècle, c'était les Incas qui avaient envahi l'Europe. Et je m'étais si bien plu à cette époque de la Renaissance que là, j'ai voulu y rester. Et donc, ça se passe une vingtaine d'années après le précédent, enfin, sans qu'il y ait de lien, puisque dans celui-là, tous les événements historiques sont à leur place. Mais donc, voilà, j'avais envie de faire un roman policier, et qui se passait à l'époque de la Renaissance. Et donc, c'est en dernier que m'est venu, en effet, vous avez raison de le dire, hein, ce qui fait la principale originalité du livre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un roman épistolaire. Et j'ai choisi cette forme épistolaire par lettre pour au moins deux raisons, pour un certain nombre de raisons, mais enfin, au moins deux raisons. La première, qui est là, c'est que, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup des romans policiers. Épistolaire, des romans policiers historiques épistolaires, j'en connais pas, et donc j'ai été attiré disons par une ambition un petit peu égomaniaque. J'ai eu envie de faire quelque chose de nouveau, et donc d'essayer d'être le premier à faire. Okay, bon, en fait, je suis sûr que si on cherche, hein, ça a dû exister, mais enfin, en tout cas, ça a guidé mon choix. Là, donc ça, c'est plutôt la mauvaise raison. S'il y a une bonne raison, la bonne raison serait que je me suis dit que marier l'épistolaire et l'intrigue policière pouvait avoir un intérêt, c'est que ça plaçait le lecteur un petit peu dans la situation de l'enquêteur, parce que le lecteur est confronté à des lettres comme un enquêteur serait confronté à des documents, des pièces à conviction, des dépositions. Et ce qui m'intéressait, c'était la multiplicité, d'une certaine manière, la multiplicité des premières personnes. C'est-à-dire que là, il y a une quinzaine, en gros, entre 15 et 20 épistoliers, mais enfin, disons, il y a une quinzaine, hein, qui écrivent les lettres. Et qui sont tous suspects, forcément, hein. Et donc ça plaçait le lecteur assez vite se rend compte que d'une lettre à l'autre, un même épistolier ne dit pas la même chose, ou que deux épistoliers ne rapportent pas l'événement de la même façon, et donc le lecteur se rend compte que les gens mentent. Et donc ça me permettait de mettre le lecteur dans une situation de paranoïa, en fait. Et ça, je trouve que enfin, par définition, c'est la situation requise pour lire un roman policier. Donc voilà voilà pourquoi j'ai décidé en dernier, hein, d'adopter la forme épistolaire. 176 lettres précisément, c'est une de plus que les liaisons dangereuses.
Et ce qui va bien aussi avec l'époque, d'intrigue, et où certaines lettres peuvent être interceptées par l'enquêteur, ce qui fait aussi rebondir dans l'intrigue et voilà, qui rebat les cartes.
Oui, il y a des. Alors, je m'étais renseigné sur les. Alors, globalement, dans mon livre, la poste fonctionne bien. C'est-à-dire que les lettres,
oui,
arrivent assez
elles arrivent
rapidement,
quand même très rapidement.
Mais j'ai quand même, j'ai fait attention à ce que ce soit toujours possible. J'avais notamment trouvé des informations dans le grand livre de Brodel sur l'histoire de la Méditerranée au XVe siècle. Et Brodel expliquait que, alors c'était très variable, hein, en effet, d'élèves parfois n'arrivaient jamais, parfois, et donc je me souviens de, je sais plus, que Paris-Istanbul, ça pouvait être 9 jours si vraiment ça marchait très bien, ou 9 mois si, bon voilà, s'il y avait des. Alors donc globalement, moi mes lettres, mais disons que j'ai toujours fait en sorte que. En gros, les lettres s'échangent entre... Donc, tout est centré sur Florence, hein, mais mes personnages écrivent à Rome. Michel-Ange est l'un... Alors, donc, l'une des caractéristiques de ce roman, comme des quatre que j'ai écrits, c'est que tous les personnages ont réellement existé. La victime, le peintre Pontormo, l'enquêteur Vasari, l'architecte, peintre et homme de confiance du duc de Florence. Bon, tous les personnages ont existé. Et donc, à cette époque-là, Michel-Ange vit à Rome. Donc, Vasari écrit à Michel-Ange à Rome. Et même au XVIe siècle, Florence-Rome, hein, c'est de 200-250 kilomètres, je crois. Donc, c'est... voilà, je comptais 2 jours pour... alors, Catherine de Médicis, qui est aussi un personnage important du livre, est à Paris. Là, je comptais, 4-5 jours de plus. Donc, les lettres arrivent, sauf quand elles se font intercepter, ou qu'elles sont... qu'elles constituent des pièces à conviction que Vasari ajoute au dossier. Il y a un autre personnage, c'est Piero Strozzi, qui est en campagne avec l'armée française. Donc là, en 1557, on est à l'époque de la 11e et dernière guerre d'Italie. Et c'est, en gros, hein, la France qui continue à vouloir s'approprier des terres italiennes. Là, ils veulent Naples. Et donc, il y a l'armée française qui descend vers Naples. Et donc, Piero Strozzi, ça, c'était aussi assez compliqué. Je voulais, donc, même si, évidemment, toute mon histoire de crime est une fiction, mais je voulais vraiment que le contexte historique soit le plus fidèle possible. Et donc, ce Piero Strozzi qui accompagne le duc de Guise avec l'armée française, à chaque fois qu'il écrivait, en fonction de la date, j'essayais de voir où était l'armée française à l'époque, puisque toutes mes lettres sont datées, mais aussi il y a le lieu. Alors, des fois, il est à Tivoli, des fois, il est de près de telle citadelle, près de Rome. Bon, c'était... Voilà. Donc, c'était... Donc c'était des complications, mais des complications dont j'espérais qu'elles puissent être fécondes pour l'intrigue. C'est le choix de l'épistolaire.
Et du coup, pour finir là-dessus, sur la manière de travailler et de construire le roman, est-ce que c'est plus complexe de fonctionner comme ça par lettre, parce qu'il faut penser à la réponse, au croisement entre les personnages? Est-ce que ça fait un plan de construction plus compliqué qu'un simple roman?
Ouais, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Et en fait, je me rends compte, j'ai oublié la troisième et peut-être la meilleure raison d'avoir. C'est peut-être pas la meilleure raison, mais il y a une troisième raison qui m'a poussé à adopter le genre épistolaire, c'est que jusqu'à présent, je m'étais toujours méfié des romans psychologiques. J'avais jamais eu envie de creuser la psychologie de mes personnages. Mais là, j'ai eu envie, et les lettres m'obligeaient à le faire, parce que pour chaque lettre, il fallait que je pénètre les motivations, la psychologie, la situation, l'esprit et le style des personnages. Et donc ça, c'était un exercice intéressant et un approfondissement des personnages comme je l'avais jamais fait auparavant. Mais ouais, c'était très compliqué au niveau de la composition. Parce que il y avait beaucoup de personnages qui écrivaient les lettres. Parce que à partir du moment où c'est un roman policier, on cherche un ou des coupables parmi un certain nombre de suspects, et s'il peut pas y avoir que 3 suspects, il peut, mais disons que c'est plus intéressant quand il y en a un certain nombre. Donc je devais avoir beaucoup de personnages. Il devait se répondre, mais en même temps il fallait que je fasse un arbitrage entre en gros il y avait plusieurs foyers de suspects. Il y avait la famille princière, si vous voulez, la famille du duc. Il y avait les Français, l'entourage de Catherine de Médicis. Il y avait les peintres, les rivaux, les amis, les ennemis de Pontormo. Il y avait aussi le monde des ouvriers. Et chacun de ces groupes échangeait entre eux, et parfois de façon pas forcément étanche, hein, ils pouvaient aussi s'échanger des lettres à travers les groupes, mais globalement, je devais faire des va-et-vient entre ces groupes, et en même temps, je pouvais pas je pouvais pas faire 50 pages sur un seul groupe. Donc il fallait... mais quand l'un des personnages écrivait à un autre personnage, je ne pouvais pas non plus faire attendre le lecteur pendant 50 pages pour que le lecteur ait la réponse. Donc c'était excessivement compliqué.
Ouais, et condensé parce que c'est des lettres vraiment très courtes.
Ouais, bon, c'est-à-dire c'est des lettres qu'on la taille de lettres. Enfin, c'est-à-dire ça me semble être oui. assez réaliste. Hein, on écrit rarement. Enfin, on peut, hein, mais enfin, on écrit rarement des lettres de 20 pages, quoi. Donc oui, les lettres.
Après, quand c'est Catherine de Médicis ou Michel-Ange, on peut s'attendre à des lettres un peu plus.
Mais on aurait tort parce que alors figurez-vous que la correspondance de Michel-Ange. Je la connais très bien maintenant. Et la majorité de ses lettres sont des lettres tout à fait triviales, de quelques lignes, où il écrit à son neveu en disant « Bon, machin n'a pas payé le loyer de telle maison que j'ai à Flob. » Donc lui, il est à Rome. C'est extrêmement trivial. C'est souvent des problèmes d'argent. C'est à son neveu, à son père. Ou alors, il décline. Le duc lui écrit régulièrement, lui fait écrire Vasari. Dans la réalité, hein, ce qui se passait, c'est que Michel-Ange était exilé à Rome. Enfin, exilé, il travaillait à Rome depuis...
On va reprendre peut-être le cadre historique de Florence à cette époque-là.
Ouais, et ben le cadre historique, c'est que c'est donc le duc de Florence est un Médicis, hein, Cosimo de Médicis, qui a été parachuté, qui s'est retrouvé duc à 18 ans à la suite de l'assassinat d'Alexandre de Médicis. Si certains d'entre vous connaissent ou se souviennent de Lorenzaccio, c'est l'histoire de Lorenzaccio. Hein, Lorenzaccio, c'est celui qui tue le duc de Florence. Et il se rend compte à la fin, c'est un drame romantique, hein, donc c'est Musset. Il se rend compte à la fin qu'il voulait être Brutus, hein, Brutus, le héros qui tue le tyran. Donc il tue Alexandre de Médicis et il se rend compte que ça sert à rien parce qu'à la place on met Cosimo de Médicis, un cousin lointain qui en gros est censé être équivalent à Alexandre, le tyran débauché. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Cosimo de Médicis a en effet fait tenu Florence d'une poigne de fer, mais s'est révélé être un très grand chef d'État avec une politique culturelle très dynamique dont qui était menée par Vasari, donc Vasari qui était son espèce de une sorte de ministre de la culture en quelque sorte et aussi son homme de confiance, et dans une situation très très compliquée pour Florence comme pour toute l'Italie, parce que l'Italie à la Renaissance c'est le terrain d'affrontement des deux superpuissances de l'époque qui étaient la France et l'Espagne. François Ier d'un côté, Charles Quint de l'autre, et là on est à l'époque où c'est Henri II et Philippe II, enfin les bon voilà. Donc France et Espagne qui veulent manger l'Italie, Cosimo doit louvoyer pour
marier à une Espagnole.
Marié à une Espagnole, hein, donc il a choisi plutôt le camp espagnol. Et le problème, c'est qu'à l'époque, le pape Rome, lui, est allié avec les Français. Et Cosimo, lui, ce qu'il veut, il est duc, ce qu'il veut, c'est être roi. Il n'y arrivera jamais, il sera grand-duc, finalement. Mais donc il doit... Et qu'un duc peut devenir un roi, ce sont l'empereur. Alors l'empereur, c'est le côté espagnol, c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique. C'est Charles Quint et le pape. Et là, donc, il y a un problème d'alliance. Il doit plaire au pape, sachant qu'en plus, le pape, c'est un pape absolument horrible qui traduit bien le fait que la Renaissance là entre dans sa phase crépusculaire. Hein. C'est Paul IV qui est celui qui a inventé la mise à l'index, vous savez, des livres jugés immoraux ou dangereux, donc qui déteste les livres, qui déteste la peinture, qui veut détruire la chapelle Sixtine parce qu'il y a trop de messieurs tout nus et que dans une église, ils trouvent pas ça normal, qui déteste aussi les homosexuels, et ça c'est un problème parce que pour Michel-Ange et pour un certain nombre de peintres de l'époque, dont Pontormo Bronzino qui était homosexuel, c'est pas du tout le cas de Cosimo. Mais Cosimo se retrouve donc pour les raisons politiques que je viens de vous expliquer à durcir un peu sa politique interne, sachant que bon, tout ce que je vous raconte là, hein, en gros, c'est le C'est ce qu'on a appelé la contre-réforme. C'est-à-dire, on est en plein concile de Trente. Les catholiques ont été extrêmement crispés par la montée du protestantisme, et donc c'est vraiment une époque très très dure. C'est le bon aujourd'hui, on dirait le retour à l'ordre moral, etc. Et donc ça place les peintres, tous ces grands peintres et artistes, dans une situation très très anxiogène en fait, au niveau artistique, mais au niveau même pour leur vie en fait, pour leur vie, pour leur indépendance. Et Michel-Ange, je trouve que cette histoire est folle. Le Paul IV voulait détruire la chapelle Sixtine. Et le compromis qui a été trouvé, c'est que on a demandé à un peintre, un ami de Michel-Ange, Daniele da Volterra, de peindre des serviettes, en gros, des voilettes, pour cacher les sexes des hommes, principalement, des hommes et des femmes, sur quasiment toutes les... pas tout, mais enfin sur presque tous les personnages de la chapelle Sixtine, en tout cas du jugement universel de Michel-Ange. Et si vous avez la chance enfin, ou si vous regardez sur Internet, mais enfin, si vous y allez, c'est encore mieux, vous verrez qu'on a laissé, depuis quand on a restauré la chapelle Sixtine, on a enlevé quelques-unes de ces serviettes, pour redonner, retrouver. Mais en fait, on a laissé la plupart comme des traces de ce que je suis en train de vous expliquer, des traces de ce moment historique qui a été le moment de la contre-réforme. Et alors, pour l'anecdote, ce pauvre Daniele da Volterra, qui était un peintre très honnête, il est passé à la postérité sous le surnom assez transparent de Il Braghettone, Il Braghettone, qu'on traduit en général par le caleçonneur, celui qui a mis des caleçons au personnage de Michel-Ange. Donc voilà pour le contexte historique que je trouvais j'ai choisi cette époque précisément de la Renaissance, parce que ce qui a gouverné le choix de cette époque, c'était d'abord le choix de Vasari. Vasari, c'est un donc peintre, sculpteur, architecte, homme de confiance du duc, mais il est passé à la postérité comme un peu l'inventeur de l'histoire de l'art, parce que c'est le premier qui a écrit sur les peintres. Il a écrit une somme qui s'appelle La vie des plus excellents peintres, architectes et sculpteurs. Et je me suis dit que celui dont toute la vie avait été, une grande partie de sa carrière avait consisté à observer les œuvres des autres, avait donc des qualités d'observateur qui en feraient un bon enquêteur. Donc c'est ça qui a fait que j'ai choisi cette époque plutôt que la grande époque de Laurent le Magnifique ou des Botticelli. Mais j'ai pas regretté, parce que ce contexte-là que je vous ai expliqué, de extrêmement tendu, me semblait propice à dramatiser l'intrigue policière que j'ai élaborée autour de la mort de cet autre peintre qui était Pontormo. Donc.
Vasari, c'est celui aussi qui a construit le couloir, la demande du duc, qui relie donc le Palazzo Vecchio au Palais Pitti, à l'extérieur
Ça aussi, c'est intéressant comme pour vous donner une idée de l'ambiance de l'époque. Le Cosimo donc tenait d'une poigne de fer cette Florence. De façon extrêmement politique, il avait rappelé des exilés républicains, mais il avait quand même, il continuait à avoir beaucoup d'ennemis. Et le chef si vous avez lu Lorenzaccio, ou si vous n'avez pas lu, je vous invite à le faire, de Musset, vous voyez que les ennemis des Médicis sont les Strozzi. Et donc là, dans mon histoire, l'un des personnages importants, c'est Piero Strozzi, le fils de Philippe Strozzi, donc le chef des Républicains, qui est l'ennemi juré des Médicis. Et Cosimo donc était c'est-à-dire devait faire avec tous les éléments de géopolitique et de politique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et comme tout chef d'État qui se respecte, surtout à l'époque de la Renaissance et surtout en Italie, il était extrêmement paranoïaque, et il avait demandé à Vasari de lui construire un corridor qui puisse lui permettre d'aller sans mettre le pied dans la rue, c'est-à-dire sans frayer au milieu de la population, quoi. Un corridor qui allait du Palais Pitti, c'est-à-dire sa résidence, à la seigneurie, c'est-à-dire son bureau, c'est-à-dire le château où il gouvernait, sans mettre le pied dans la rue. Et donc ce corridor est une espèce, c'est à peu près comme un métro suspendu, si vous voulez, enfin sauf que c'est et passe au-dessus du vieux pont, hein, le Ponte Vecchio, ouais, et on le voit encore aujourd'hui. On n'y a pas accès malheureusement depuis le Covid, mais on peut pas le visiter. Mais on voit cette espèce voilà, c'est ça, c'est comme cette espèce là de conduit là, mais à taille humaine pour qu'un humain passe, avec des œilletons qui lui permettaient, enfin des espèces d'œil de bœuf là, ou qui lui permettaient lui d'observer. La population sans qu'il puisse être vu, avec en plus ce climat un petit peu orwellien qui faisait que les gens, eux, ne savaient jamais quand les observer ou pas. Et donc Vasari, pour vous dire aussi la place qu'avait Vasari dans le dispositif, enfin à l'époque à Florence, et ben Vasari s'acquitte de cette tâche en 5 mois. Il lui construit ses 150 ou 300 mètres de couloir.
Oui, c'est assez long, hein, quand même. Ouais. Ouais.
Jusqu'aux offices, en fait. Ouais. Les offices, le musée des offices. Pourquoi le musée des enfin, peut-être là, je vous dis une bêtise, mais il me semble que ça ferait sens. Le musée des offices s'appelle office parce que c'était les bureaux, en fait, les bureaux du gouvernement, tout simplement. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, Vasari était l'homme de confiance du duc parce qu'il était extrêmement efficace. En 5 mois, il lui fait son couloir. C'est lui qui était aussi chargé de la restauration de la grande salle du château de la Seigneurie. C'est un des édifices les plus magnifiques de Florence. Il y a un hall qui est immense dans la Seigneurie. Et alors, je ne peux pas résister. Enfin, je digresse, hein, mais maintenant que je suis là, je vous raconte ce qu'il y a. dans la Seigneurie. Donc, il y a cette salle immense. Et on avait demandé, donc bien des années auparavant, à Michel-Ange et à Léonard de Vinci de faire deux grandes fresques. Donc, face à face. Alors là, le choc des titans, quoi. Et les deux étaient partis pour faire des fresques absolument sublimes. Sauf que Léonard, qui était donc l'inventeur génial, mais un petit peu, qui maîtrisait pas toujours ses expériences, avait voulu inventer un mélange spécial de son invention, des couleurs, et en fait le truc a pas tenu et a disparu. Et il a pas fini, il est parti à Milan. Et Michel-Ange, pareil. Alors c'était pas un problème de mélange, mais enfin il a fait ce qu'on appelle un carton, hein, c'est-à-dire le dessin préparatoire sur un carton, mais pas à même le mur. Grandeur nature, super, très beau, mais il a pas fini, il est parti aussi. Je sais plus ce qui s'est passé, s'il y a eu une révolution quelconque, ou les républicains, les Médicis, je sais plus. Mais donc ces deux fresques n'ont jamais été terminées, ont été en plus, enfin l'une a été abîmée, et donc Cosimo a demandé à Vasari de les remplacer. Et donc maintenant, ce que vous voyez dans le palais de la Seigneurie, c'est des immenses fresques de Vasari qui sont très belles, mais c'est pas Michel-Ange, c'est pas Léonard, et tout le monde fantasme sur encore maintenant, on se dit ah mais peut-être que si on grattait, on retrouverait des traces, mais on trouverait pas les magnifiques trucs puisqu'ils avaient de toute façon pas été achevés. Enfin bon, voilà en tout cas pour le contexte en gros et l'ambiance de l'époque, quoi.
Alors on va revenir à la chapelle San Lorenzo avec donc où gît ce pauvre Pontormo. Lui, il est en train de faire aussi des fresques qui sont cachées par des palissades, parce que c'est pas facile, hein, c'est comme Michel-Ange, peindre. Alors lui, c'est l'Arche de Noé, enfin c'est le déluge,
entre autres, ouais.
C'est des corps noyés.
De toute façon, c'est simple, c'est un truc qui rivalise avec la chapelle Sixtine. La chapelle de l'église San Lorenzo, c'est l'église des Médicis, et là Cosimo lui a dit, fais-moi un truc qui pète, enfin la chapelle Sixtine de Florence. Et donc ça fait 11 ans qu'il travaille là-dessus. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé à la base, mais c'était très intéressant parce que cette fresque-là, est-ce qu'elle a vraiment rivalisé avec la chapelle Sixtine? On n'en sait rien, parce que ce qui s'est passé, c'est que après 11 ans à travailler dessus, il est mort. Son ancien élève Bronzino a achevé la fresque, et quand la fresque a été inaugurée, et ben en fait, elle a pas tellement plu. Parce que l'époque glorieuse de la Renaissance, de la chapelle Sixtine, était passée, parce qu'on était à l'époque de la contre-réforme, que le déluge, notamment ces corps, ces cadavres entassés, c'était trop choquant pour l'époque, donc cette époque un peu crépusculaire. Et on n'a pas entretenu la fresque. Et au XVIIIe siècle, l'une des dernières Médicis a décidé de refaire toute la chapelle et tout a été déblayé, tout a été détruit en fait. Et les seules traces qu'on a, c'est des dessins préparatoires de Pontormo. Voilà, quelques dizaines de dessins, et j'avais demandé à Grasset d'en mettre deux sur les rabats du livre, qui donnent une idée de à quoi ça a pu ressembler, mais sinon voilà, on n'a plus rien. Et donc c'était je m'étais dit que c'était aussi que Vasari avait toutes les qualités pour être enquêteur, mais que ce Pontormo avait toutes les qualités pour être une victime, parce que cette histoire de fresque disparue lui conférait une aura de mystère, et puis un côté aussi Michel-Ange maudit, en fait. C'est vraiment le pendant maudit de Michel-Ange.
Obscur, quoi. Maudit. Ouais, ouais, ouais. Et alors, dans l'enquête, on se rend assez rapidement compte, hein, je dévoile rien du tout de l'intrigue, que les fresques, chose que j'ai appris cet été, ça vient de l'italien à fresco,
ouais.
Et on peignait sur aussi, de l'enduit frais. Voilà. Et il y a eu une retouche sur la figure de Noé. Et donc, on se demande, voilà, l'assassin, ou si c'est l'assassin, qu'est-ce qui s'est passé sur cette portion de fresque qui était encore une fois cachée de tout le monde, à part le broyeur de couleurs et puis ceux qui travaillaient avec le Pontormo.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc à partir de moi, je me suis passionné pour... Je suis un converti tardif en matière de... Donc je suis très ignorant à la base en matière d'histoire de l'art, et jusqu'à 30 ans, j'avais fait 3 musées dans ma vie, mais alors, comme souvent depuis, les convertis tardifs, depuis, je suis très fervent. Et je me suis passionné pour la peinture italienne, et notamment la peinture à fresque, hein, donc, c'est-à-dire, en effet, les fresques s'appellent des fresques parce qu'il fallait que... il fallait que la peinture soit fraîche. Enfin, il fallait qu'en fait, d'abord, on enduit le mur, et en fait, on ne pouvait... pour qu'il y ait une unité de couleur, il fallait que la partie qu'on peignait soit terminée avant que l'enduit ait séché.
On peut pas retoucher après.
Non, c'est ça. Il fallait peindre des pans, hein, des blocs. Tout ne se faisait pas en une journée, mais une session de peinture de fresque s'appelait une journée, justement. Et si l'enduit avait séché, c'était foutu. Et donc là, je me suis intéressé donc à plein de trucs sur la peinture italienne, mais ce que je voulais, à partir du moment où j'avais décidé de faire un roman policier, c'était essayer d'intégrer tout ce savoir, là, ce dont je suis en train de vous parler, d'en faire des éléments de l'intrigue. Et donc là, l'élément que j'ai trouvé pour illustrer ce que je suis en train de vous raconter sur les fresques, c'est que Pontormo, en plus, était connu pour être très, très méticuleux. Et donc, dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, il recommençait tout. Bon, ça faisait 11 ans qu'il bossait sur le... Donc, visiblement, il était, en effet, assez méticuleux et assez exigeant. Et là, on découvre que... Donc, on découvre son cadavre dans la chapelle de San Lorenzo, au pied de... Donc, il y avait plusieurs pans de murs, au pied du mur qui concernait le déluge. Et on voit qu'à un moment, il y a une partie qui a été refaite parce que les couleurs ne sont pas exactement... Enfin, on voit le raccord, en fait, tout simplement. On voit le raccord et aussi, les jours passants, on se rend compte que les couleurs sont pas exactement de la même teinte. Et donc, en effet, c'est un élément de mystère pour l'enquête, pour l'enquêteur et pour Vasari, parce que ça correspond pas avec la méticulosité de Pontormo. Et puis parce que voilà, c'est-à-dire, enfin, pour tout peintre qui se respecte, normalement, on voit pas les raccords.
Ce qui veut dire aussi, parce que donc il y a un broyeur de couleurs que c'était presque de la chimie, de connaître en fait, les capacités des pigments à sécher, enfin quelle teinte ça allait donner. Et j'étais surprise d'apprendre que les peintres étaient dans la même corporation que les pharmaciens et les médecins.
Exactement, mais pour ces raisons-là, pour ces raisons-là même, parce que l'élaboration des couleurs relevait de la chimie en fait.
Chaque peintre avait, c'est ça, des broyeurs de couleurs qui savaient pertinemment comment allaient tourner les pigments.
Ils travaillaient ensemble et donc c'est-à-dire on pense toujours on imagine des génies solitaires, hein, Léonard de Vinci, etc. En fait, c'était des ateliers avec des apprentis. Et ça c'était aussi un aspect que je trouvais intéressant et pareil que j'avais pas anticipé placer mon roman policier dans le milieu de la peinture, c'était la possibilité d'offrir au lecteur un tableau vraiment complet de la société italienne, florentine de l'époque, parce que les peintres étaient en contact avec tous les milieux de la société, avec leurs commanditaires qui étaient les princes, les ducs, les rois, avec les autres artistes, les peintres, mais aussi avec des artisans, des ouvriers qui s'occupaient du matériel, de préparer donc tous les personnages, encore une fois, de mon roman ont existé, y compris ce personnage que je trouvais intéressant, que j'ai trouvé dans le journal de Pontormo. Pontormo a écrit un petit journal où il racontait en gros ses journées, qui a pas spécialement d'intérêt littéraire ou ni même artistique, mais qui était pour moi vraiment un document de première main pour comprendre ce que c'était que la vie quotidienne de ce peintre-là et puis de la vie quotidienne de l'époque. Et il parle de cet ouvrier, Marco Moro, avec qui il se dispute assez souvent, qui broyait ses couleurs, qui préparait ses couleurs, mais qui aussi était en charge d'avoir mis cette palissade parce que Pontormo voulait pas, comme beaucoup d'artistes, il avait pas envie qu'on regarde par-dessus son épaule, et il voulait pas qu'on voit qu'on voit ses fresques avant qu'il les ait finies.
Alors il y a un autre aussi élément qu'on sait rapidement et qu'on retrouve en couverture, c'est un tableau d'après un carton de Michel-Ange, donc qui est plutôt avec un Cupidon dénudé qui va plus du tout avec l'époque, lascif. Ouais. Et le portrait que l'on voit, c'est Maria de Médicis, donc la fille aînée de Cosimo, qui est un des personnages du livre. Et donc la juxtaposition forcément de ces deux images est un autre élément de l'enquête, donc qui va être aussi prétexte, parce qu'on peut se demander pourquoi Catherine de Médicis, qu'est-ce qu'elle fait dans cette histoire. Si elle peut nuire à son cousin, elle va pas s'en priver, donc elle va essayer de mettre la main sur ce tableau pour essayer de nuire à Cosimo. Et c'est là où on revient sur l'intrigue, à la fois, du moins des raisons politiques ou religieuses qui peuvent être un des prétextes du meurtre.
Il y a deux choses. C'est que, en effet, Catherine de Médicis, elle, c'est la dernière héritière en ligne directe de Laurent le Magnifique. Et donc, d'une certaine manière, l'héritière légitime. Alors elle a eu un autre parcours semé d'embûches d'ailleurs, mais enfin qui l'a conduite à devenir reine de France sans que personne ait pu prévoir. Elle s'est retrouvée reine de France, et reine de France a régné parce que là, à l'époque, Henri II est pas encore mort. C'est-à-dire le destin de Catherine de Médicis est tout à fait passionnant, parce que c'est cette petite Florentine là qui avait réchappé à beaucoup d'événements dans son enfance va se retrouver être l'un des plus grands chefs d'État en fait de toute l'histoire de France. Mais à l'époque, elle est encore l'épouse de Henri II, mais c'est déjà une femme politique, héritière en ligne directe de Laurent le Magnifique, et donc revendiquant Florence, sachant que Cosimo, lui, est une branche plus éloignée et qu'on appelait de façon assez méprisante la branche populaire, en fait. Cosimo il Popolano, hein, parce que c'était pas la ligne directe, c'était un cousin éloigné. Et donc Catherine de Médicis, il y a une rivalité entre Catherine de Médicis et Cosimo de Médicis. Et donc l'intrigue en gros, c'est que ce dessin, cette peinture, elle est aussi intéressante. C'est une peinture qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est sur un dessin de Michel-Ange. Michel-Ange l'avait offert à Pontormo. Pontormo en a fait ce tableau, donc une Vénus avec un Cupidon qui a carrément son pied entre ses jambes. Hein. J'ai imaginé que on retrouvait, donc Pontormo est mort, et donc, on retrouve dans son atelier ce tableau avec le visage. Alors là, j'ai bricolé un petit truc, j'ai même laissé le... Donc c'est moi qui ai fait ce montage rudimentaire, on voit encore le trombone, mais enfin, dans l'histoire, l'idée c'est que là il y a une vraie... le tableau a vraiment été repeint avec la tête de la jeune Maria, qui a 16 ans, 17 ans, et on est en plein crime de lèse-majesté, il y a une volonté, donc c'est pour ça que le duc commande à l'enquête à Vasari, parce que il faut que l'enquête soit discrète, puisque là on est en plein scandale d'État. Et ce tableau, il illustre parfaitement tout ce que je suis en train de vous raconter là depuis le début, parce que il a existé plusieurs versions de ce tableau. Il y a eu plein de copies de ce tableau qui ont circulé dans toute l'Europe. Vasari aussi a fait sa propre version, et il y a une copie où il y a la voilette, hein, la voilette de l'époque de la contre-réforme, où on voit plus là le pied dans l'entrejambe de la Vénus, parce que pour les raisons que je vous ai, parce que c'est la contre-réforme, le Concile de Trente, etc., etc. Donc ce tableau, je le trouvais intéressant parce qu'en plus, hein, c'est d'après un dessin de Michel-Ange. L'intrigue que j'ai élaborée me permettait de mettre en scène cette situation, la situation compliquée, hein, de cette époque de tendue de la contre-réforme, et puis de cette idée, hein, que la fête est finie, quoi. Là, c'est que... Botticelli, tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est...
Ouais, qu'on doit se méfier de tout le monde, que la rumeur va vite, que tous les coups aussi sont permis pour nuire à ses ennemis. Donc il y a plusieurs tableaux, hein, dans le livre, et puis je voudrais que vous nous parliez peut-être aussi de l'importance des femmes peintres à l'époque. Est-ce que Vasari en parle dans son ouvrage là, qui recense les...
Ouais, c'est tout à fait étonnant. Enfin bon, là je alors là, moi je maintenant il y a une femme de la Renaissance qu'on connaît bien, c'est Artemisa qui peut m'aider. Gentileschi, voilà. Artemisa, voilà. Donc à l'époque, hein, donc qui est un peu dans le genre de Caravage, qui est très, ces dernières années, qui a été très mise en avant et qui, à juste titre. Hein. Mais j'ai découvert en effet qu'il y avait d'autres femmes peintres, dont parle Vasari dans sa vie des peintres. Et surtout, je suis tombé sur ce personnage tout à fait étonnant de Plotianelli, qui était une femme peintre, bonne sœur et savonaroliste. Savonaroliste, hein, c'est-à-dire, donc pour faire court, Savonarole, à la mort de Laurent le Magnifique, Savonarole, c'est un moine dominicain qui prend le contrôle de la ville, qui fait régner une espèce de théocratie pendant 4 ans. Et alors qui est là, on sait, bon, c'est même plus, c'est une ambiance de taliban. Hein. C'est-à-dire c'est lui qui invente, ce qu'on a appelé le bûcher des vanités. C'est-à-dire qu'il demande aux Florentins d'apporter leurs richesses, leurs bijoux, et de les jeter, il fait de les jeter au feu. Et parmi ces richesses, il y avait aussi des tableaux. Et la légende dit que... Botticelli en personne est venu avec certains de ses tableaux, les acheter au feu. Et donc, bon, au bout de 4 ans, les Florentins, ils n'en pouvaient plus. Et puis Rome, le pape, Savonarole a fini sur lui aussi au bûcher. Hein, on l'a brûlé. Et puis on est passé à autre chose. Sauf que ces idées ont continué à perdurer et que ça, donc. 50 ans, 60 ans plus tard, il y a encore des savonarolistes, parmi lesquels cette bonne sœur, Plotianelli, qui était, et donc ça, je trouvais ça tout à fait passionnant, à la fois, enfin, c'est cette dissonance cognitive, donc elle était à la tête d'un... Elle était prieure d'un couvent pour bonne sœur, Et elle était aussi peintre. Et alors ça, je ne sais pas comment, dans quelles circonstances elle a appris la peinture. Elle a, enfin, bon, mais il y a toute une biographie à faire de cette femme-là. En tout cas, je trouve ça fascinant sur ce que ça dit de l'étendue des contradictions possibles d'un être humain, hein, à la fois peintre, savonaroliste, et donc j'ai voulu aussi l'intégrer dans l'histoire pour rendre compte aussi de ces complexités et de ces contradictions, d'après ce que j'en savais, principalement par Vasari, et puis aussi par ses œuvres. Alors, ses œuvres, hein, c'est principalement des œuvres religieuses.
Religieuses, mais voilà.
Et alors ça aussi, c'est très intéressant. Tout un aspect de l'enquête de Vasari consiste à essayer de comprendre qui a pu retoucher cette partie de la fresque. C'était un aspect qui m'intéressait, c'est-à-dire qui avait les moyens techniques et artistiques de le faire, c'est-à-dire qui pouvait être assez bon pour être au niveau de Pontormo, en fait, parce que mis à part le raccord, la partie retouchée est très belle. Et donc, on cherche qui est capable de faire ça. Qui en avait, bon, c'est-à-dire comme une enquête, hein, c'est quoi les trois choses là, le mobile, c'est le plus important, hein, et puis les moyens et l'opportunité. Donc mobile, moyen, opportunité. Et donc là, sur qui en avait les moyens, on cherche. Et donc Plotianelli, comme tous les autres peintres, est un suspect, mais elle, elle avait un problème. Il reste des tableaux de Plotianelli dans certaines églises ou aux offices à Florence, et qui sont des très beaux tableaux, mais sur certains tableaux, on voit qu'il y avait un problème, c'est que, notamment une déposition d'un Christ, où le Christ a l'air vraiment d'être un mannequin en bois. Et pourquoi ? Mais parce que, en fait, probablement, elle a peint d'après un mannequin en bois, parce qu'elle ne pouvait pas avoir accès à des modèles d'hommes vivants à moitié nus ou totalement nus. Et donc, en fait, elle était, bon, comme souvent, hein, les femmes dans leur carrière professionnelle, elle, aussi talentueuse qu'elle était entravée par le fait qu'elle n'avait pas accès, en l'occurrence, au modèle masculin, et que donc, ces corps d'hommes, ils n'étaient pas terribles, en fait.
Alors que les corps de femmes, là, elle avait
des modèles. Enfin bon, les femmes n'étaient pas toutes nues non plus, de toute façon. Hein,
mais voilà, c'est ça. Et on se rend compte de la liste des suspects est quand même assez conséquente, ce qui dit aussi le niveau des peintres de l'époque à Florence.
Tout à fait.
Proximité de Florence.
Alors ils sont moins connus, ces peintres-là, que Sainte Trinité, Léonard de Vinci, Raphaël, et puis Michel-Ange. Il y a les Botticelli, etc. Là, ces peintres-là attiennent à une école qui s'appelle le maniérisme, hein, et donc c'est les Pontormo. Donc parmi mes personnages, il y a Pontormo, son disciple Bronzino, le disciple de Bronzino Allori, et puis un certain nombre d'autres peintres qui étaient très talentueux, Salviati qui apparaît pas parce que, enfin, à la même époque, il est en France, enfin bon, Andrea del Sarto, enfin des très bons peintres, mais qui avaient le malheur d'arriver après. Et ça aussi, je trouvais ça très intéressant, qui appartiennent à cette école qu'on a appelée le maniérisme. Le maniérisme, c'est ces peintres qui se sont retrouvés avec une problématique qui était la suivante. Hein, comment est-ce qu'on peut dépasser les génies, Léonard Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y avait cette sensation, bon, outre le génie intrinsèque de ces trois peintres, hein, Michel-Ange, Léonard, il y avait le problème que on avait l'impression que la perspective, l'invention de la perspective, qui est la plus grande révolution de toute l'histoire de la peinture, hein, l'invention de la perspective avait permis à la peinture d'arriver à un degré de réalisme qui ne pouvait pas être surmonté. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces peintres-là ? Ces peintres-là étaient tous des disciples de Michel-Ange, hein, à l'époque. Michel-Ange est encore vivant, parce que Michel-Ange a vécu 90 ans, et Michel-Ange est un dieu vivant pour tout le monde. Mais donc, ils sont tous terrassés par le génie de Michel-Ange. Et en fait, Michel-Ange lui-même, d'ailleurs, hein, pour se réinventer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils décident que, la perspective, c'est génial, cette perfection, mais qu'en fait, on va pas essayer de la dépasser puisqu'elle est indépassable, on va plutôt la tordre. Et donc, en fait, le renouvellement artistique, esthétique de l'époque va consister à tordre les corps. Au lieu de faire des corps absolument parfaits, on va, par exemple, allonger des coups. Vous savez, il y a un peintre, le Parmigiano, je crois, qui fait ça. Ou alors, on va rajouter une vertèbre au dos d'un modèle de femme. Ou alors, au lieu de s'extasier justement sur la perspective en multipliant les solades damier, vous savez, les solades damier au moment de l'invention de la perspective, on fait des solades damier pour vraiment que le spectateur ait la représentation visuelle de la profondeur. On va faire l'inverse, on va gommer les sols, on va faire des personnages qui flottent un peu dans l'espace, et ça va donner une peinture beaucoup plus onirique, en fait, beaucoup plus et beaucoup moins réaliste, en fait, c'est-à-dire d'une certaine manière surréaliste, hein, si vous me pardonnerez l'anachronisme. Mais bon, et donc ça, je trouve que d'un point de vue, c'est intéressant au niveau de l'histoire de l'art, hein, comment est-ce qu'on résout, on trouve une solution à un problème artistique qui est qu'on se sent dans une impasse. Et je trouve que moi, ça me fait penser à la situation dans laquelle se sont retrouvés les peintres, les artistes, au moment de l'invention de la photographie, en fait. L'invention de la photographie, il paraît, hein, la légende dit qu'il y a des peintres qui se sont suicidés. Et puis, il y en a d'autres, plus malins, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont inventé le cubisme, l'abstraction, le surréalisme. Exactement. Ouais.
Du coup, dans la fresque là, de la chapelle, les corps des noyés... sont représentés comme vous le dites.
On ne sait pas exactement.
Il y a des écrits, mais justement, il y a des choses qui restent.
Oui, c'est-à-dire, Vasari lui-même, il commente ces fresques-là. Et lui, parce que pour des raisons sans doute politiques, hein, au moment où il l'écrit, comme il dit que voilà, Pontormo là était un peintre génial, mais ça c'est pas sa meilleure période, et que vraiment il est horrifié, il comprend pas cet amas de corps de noyés, de corps gonflés, il trouve ça horrible d'une certaine façon. Enfin, nous, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, mais en tout cas, on sait que ceux qui ont eu la chance de voir ça n'ont pas tellement profité, puisque ça les a choqués, quoi.
Alors, perspective, on va s'arrêter 5 minutes si on a encore un petit peu de temps, oui, parce que c'est quand même le titre du livre. Que la perspective, je pense que vous êtes aussi amusé sur une scène qui est un peu de cap et d'épée, où il y a un personnage qui fuit sur le dôme. Et la perspective qui sauve la vie quand même de Vasari.
Oui, je me suis amusé à faire une scène. Donc j'avais envie qu'il y ait une dimension de cap et d'épée dans mon roman. Enfin, puisque l'époque s'y prête aussi. Hein, c'est l'époque quand même. On est entre les Borgia et la Saint-Barthélemy. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque coin de rue, on peut se prendre un coup de dague, ou alors à chaque repas, on peut se retrouver empoisonné. Et donc j'avais envie de restituer cette dimension-là. Mais encore une fois, de coller avec mon sujet, et avec le fait que j'ai choisi de faire ce roman policier, cette enquête dans les milieux de la peinture. Et donc ça m'a amusé de faire une scène que j'ai appelée, tout au long de l'élaboration de mon livre, j'ai appelé ça ma scène Matrix, parce que c'est un moment où Vasari se retrouve en danger, attaqué par un assassin qui lui tire dessus, et lui se retrouve, les gardes, son escorte, ils sont morts, et il ramasse, et lui c'est pas un homme d'action, c'est un artiste et un politique, mais il ramasse l'arbalète de son garde. Et à un moment, il voit en fait des lignes qui se dessinent sous ses yeux, toutes les lignes qui lui permettent, donc les lignes de la perspective, enfin les lignes de fuite qui lui permettent, qui convergent vers la tête de son ennemi, et qui lui permettent de tirer et de planter, de ficher un carreau d'arbalète dans le front de son ennemi. Et je voyais, c'est-à-dire j'imaginais, vous savez, dans le film Matrix, parfois se surimprime sur l'image les lignes de code qui quadrillent, en fait, et donc j'avais cette représentation là du quadrillage de ce que voyait Vasari comme le travail préparatoire pour un tableau, et je trouvais ça amusant l'idée c'était aussi de dire que de temps en temps, hein, c'est-à-dire je prêchais aussi, j'imagine, pour moi, de temps en temps l'étude des arts ou des sciences humaines ou de la littérature peut avoir des applications pratiques. Donc voilà, là, l'application pratique, c'était Vasari qui sauve sa vie et qui se découvre des talents au tir à l'arbalète. Grâce à sa connaissance de la perspective et à la ligne de fuite qui lui permet de toucher au but.
Et autre petite chose sur la perspective, là, c'est tiré d'une lettre de Michel-Ange. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été écrit.
Non, là, c'est que moi. Ouais. Ouais. Là, je me suis beaucoup. Alors, toutes les lettres sont truffées de citations pour donner une couleur la plus authentique possible. Donc, j'ai utilisé beaucoup de citations de Vasari, de Michel-Ange. Mais tout cet échange entre Vasari et Michel-Ange sur la perspective. Vient de moi, en fait, ouais, vient de moi. Mais c'était une manière d'illustrer, la réflexion là que, enfin, ce dont je discute avec vous en ce moment sur cette question de, ce moment artistique où on ne sait pas quoi faire de là. Ce qui est intéressant, c'est que ces maniéristes là qui décident de tordre la perspective, la maîtriser à la perfection. C'est ça, moi qui m'intéressait. C'est comme vous savez, hein, Picasso. Hein, Picasso était un très bon dessinateur. Hein, et alors, donc, quand les gens disent ah oui, bah un enfant de 4 ans pourrait faire ça. Il y a cette belle phrase de Picasso qui disait moi j'ai mis toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. C'est-à-dire, c'est des questions. C'est des questions artistiques en fait qui m'intéressaient. Hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'affranchit de règles, des règles, des contraintes à un moment, c'est-à-dire quand il y a un saut dans l'histoire de l'art, mais que ce soit en littérature, en peinture ou en ce que vous voulez, quand il y a une étape, quand on franchit un seuil, ce seuil est toujours franchi par des gens qui maîtrisent l'étape précédente. Hein, il faut d'abord, pour s'affranchir des règles, il faut les connaître, quoi. Et donc ça, je trouvais que c'était un sujet, donc un méta-sujet, si vous voulez, hors de mon intrigue policière, mais qui m'intéressait parce que les choses artistiques au sens général m'intéressent, quoi.
Là, c'était une autre petite citation que j'avais retenue dans une lettre de Michel-Ange sur la perspective qui permettait de voir l'infini. Et du coup, avec une belle phrase en disant que les peintres, c'était...
Nous sommes les fenêtres de Dieu. Voilà. Ouais. Ben oui, enfin ça aussi, je trouve que c'était une métaphore qui fonctionnait bien pour la peinture. Hein. Un tableau, c'est une fenêtre, quoi. Mm-hmm. Et ceux qui ont inventé, qui ont trouvé les règles de la perspective, hein, les Brunelleschi, Alberti, Masaccio, voyez ça comme ça, hein, c'est-à-dire des histoires de coups d'ailleurs, des trucs assez techniques que difficile à comprendre, que j'ai toujours pas tout à fait bien assimilé, mais enfin en tout cas je trouve que c'est ça la magie de la peinture, c'est ça, c'est que la peinture c'est une fenêtre, ouais.
Vous l'avez porté pendant combien de temps ce livre ?
Eh ben j'ai mis à peu près 4 ans à l'écrire, ce qui est plutôt rapide pour moi vu que le précédent, j'avais mis 4 ans, celui d'avant 5, et puis HHHH, 10. Donc, j'ai plutôt tendance à devenir de plus en plus rapide.
On vous retrouve dans 2 ans pour le prochain.
On ne sait pas.
Et est-ce que, voilà, parce que toutes ces lettres, tous ces personnages, est-ce qu'il y en a un pour lequel vous avez, ou une, un attachement particulier ?
Ouais. Alors, bon, j'aime beaucoup Catherine de Médicis. Qui est vraiment l'un des morceaux de bravoure du livre, c'est la lettre de Catherine à Maria, la lettre 43, je crois, qui est très inspirée de la lettre de Merteuil à Valmont, la célèbre lettre 80 des liaisons dangereuses. Mais j'avoue que, c'est-à-dire en tant que garçon, c'était un petit peu genré, je pense. C'est même totalement genré. Mon personnage préféré, c'est Benvenuto Cellini, qui était un orfèvre et un sculpteur qui a sculpté le Persée qui tient la tête de la Méduse qui est sur la place de la Seigneurie à Florence, à côté du David de Michel-Ange, hein, encore ouais. Aujourd'hui, mais qui a écrit, il se trouve qu'il a écrit ses mémoires, et ses mémoires se lisent un peu comme les mémoires de Casanova, hein, pas au sens de... Bon, enfin, c'est-à-dire, il raconte certaines aventures, mais pas au sens où c'était un grand séducteur, mais c'était un aventurier, et un aventurier très fanfaron, très vantard, très... très truculent, enfin un voyou, un bandit, il a été en prison, il s'est évadé, il est allé en France, il finissait jamais ses commandes, il réclamait de l'argent, il détestait Vasari.
Elle s'en méfie, Catherine de Médicis.
Elle a raison, parce qu'il faut s'en méfier de, il fallait s'en méfier de Cellini, absolument pas fiable. Mais voilà, disons une vie de légende, une vie d'aventurier de légende. Et donc voilà, oui, j'ai un faible pour Benvenuto Cellini. Ouais.
Bon, merci beaucoup.
Merci.
J'espère qu'on vous aura. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, on n'a rien dévoilé de l'intrigue et qu'on vous aura donné envie de découvrir donc ce quatrième roman. Et je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Merci.